Du lundi au vendredi sur Radio Alta Bregoanza, après les grands journaux de la rédaction de 7h30 et midi, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Ousguardou. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse, une interview sans concession du lundi au vendredi, le matin et à midi avec Marion Lanfranc.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une nouvelle semaine d'Ousguardou qui s'annonce avec un nouvel invité, Jean-François Casalta. Bonjour.
Bonjour Maria et bonjour à toutes.
Une émission, une première émission en tout cas enregistrée hors les murs. On retrouvera Jean-François Casalta dans nos studios à partir de demain. On va parler ce matin et à midi, si vous le voulez bien, des élections municipales, puisque on rappelle que vous êtes candidat pour la liste PAIACH ou à la municipalité d'Ajaccio. Donc une liste composée de membres du PNC, de membre de Corsica Libre, verra de personnalité d'ouverture aussi, c'est tel que vous la définissez. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans cette bataille des municipales ?
Eh bien écoutez, je pense que c'est l'achèvement, ou en tout cas le début peut-être, d'un processus qui part de loin. J'ai déjà été candidat sur des listes municipales à Ajaccio depuis 2008 au moins. Il m'apparaissait que maintenant, il était temps de prendre ses responsabilités et de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire de conduire cette liste pour accéder aux responsabilités avec une équipe extraordinaire qui me soutient jusqu'à présent et qui sera, je l'espère, avec moi à la tête de cette municipalité dès le 23 mars prochain.
Alors, donc, une liste à consonance nationaliste pour l'essentiel, mais autour de cette ouverture que vous avez voulu, comment est-ce que vous l'expliquez, cette nécessité d'ouverture ?
Ce n'est pas quelque chose qui s'explique forcément, parce que l'ouverture pour nous, c'est consubstantiel de notre démarche et ça l'a toujours été. Et ça, c'est important de le souligner. Le nationalisme qui est le nôtre et dans lequel nous sommes fermement campés, s'accompagne obligatoirement de cette ouverture dont vous parliez, Maria. Et encore, le terme d'ouverture, moi, ne me convient pas véritablement. Je préfère parler de complémentarité. Je préfère parler d'enrichissement par des personnalités extérieures qui ne sont pas forcément encartées dans les parties desquelles nous venons, voire qui ne sont pas nationalistes du tout. Ce qui est important, ce sont les projets et les idées pour Ajaccio et la compétence des personnes qui les portent. C'est ça qui est fondamental. Quand on mettra la bonne personne à la bonne place, cette ville pourra avancer. C'est ce que nous voulons faire.
Sur le terme même de nationalisme, on a entendu beaucoup aujourd'hui ne plus l'employer ou moins l'employer pour venir à un terme comme patriotisme. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous satisfait ou vous restez justement dans ce vocabulaire-là ?
Moi, je fais pas de la sémantique. Hein, quand on dise patriotisme, quand on dise nationalisme, quand on dise attaché à la nation corse, quand on parle d'autodétermination, tout ça, évidemment, c'est quelque chose que nous partageons. Je pense pas qu'il faille rester bloqué ou omnubilé par les termes. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire aux gens que nous voulons sur cette terre faire en sorte que nous puissions avoir les moyens de contrôle suffisants pour faire progresser, pour que les droits historiques de notre peuple soient enfin respectés parce qu'ils ne l'ont jamais été, pour que nous puissions enfin aller dans le sens de nos idées, pour que nous soyons au plus près de nos territoires et que nous dirigions les choses, que nous ayons la capacité de faire loi. Parce que quand nous aurons cette capacité-là, véritablement, il y aura des progrès et des avantages. Vous savez, souvent, on nous taxe de dogmatisme, d'idéologie, on dit vous ne parlez que de constitution et vous ne vous occupez pas des problèmes du quotidien. Mais il faut savoir que c'est complètement lié. Si d'aventure nous n'avons pas les moyens de notre politique, eh bien malheureusement, le quotidien des Corses, leur confort, leur bien-être s'améliorera très peu et très lentement. Et nous voulons aller plus loin et nous voulons aller plus vite.
Cette question constitutionnelle, elle est aussi au cœur de du développement que vous voulez pour Ajaccio.
On ne peut pas parler de question constitutionnelle quand on est engagé dans une élection municipale. Ce n'est pas exactement à la même échelle. Mais il est évident que notamment au travers des motions que nous avons déposées à l'Assemblée, des questions orales que nous avons posées, nous avons vu que ces questions de résidence secondaire, de statut de résident, qui feraient énormément de bien à la ville, qui limiteraient justement cette spéculation qui nous fait tant de mal, ça dépend aussi de questions constitutionnelles. C'est pour ça que le lien doit être fait entre les questions qui sont traitées à un niveau plus élevé, au niveau de l'État français, et les questions qui intéressent les habitants de notre ville.
Aujourd'hui, vous pensez qu'avoir une majorité nationaliste à la tête de la capitale de la Corse, c'est important, alors même que la Corse a une majorité nationaliste à sa tête et que la ville d'Ajaccio se dit aujourd'hui oubliée par cette même collectivité.
La ville d'Ajaccio a été oubliée pendant des dizaines d'années. Ça a toujours été malheureusement la belle endormie, la grande oubliée de la collectivité territoriale. Les choses ont changé depuis 2015 et je le dis parce que je suis membre de cette collectivité et que j'en suis complètement solidaire. Est-ce que les choses vont assez vite ? Malheureusement non. Est-ce qu'elles vont assez loin? Malheureusement non. Mais je crois, moi, que le fait d'avoir une présence ajaxienne forte à la collectivité de Corse, renforcée par une municipalité qui aura justement les liens pertinents pour pouvoir faire avancer les choses et faire en sorte qu'avec la vision globale que nous voulons développer, tout s'emboîte enfin, qu'on puisse marcher les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, ça ne pourra être que très profitable à notre belle ville d'Ayache.
Merci Jean-François Casalta. Merci, on vous retrouve tout à l'heure avant, après le journal Le Midi Écart. À tout à l'heure.
À dopo.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Jean-François Casalta qui est notre invité cette semaine, candidat à la municipalité d'Ajaccio, également conseiller territorial et avocat. Bonjour.
Bonjour Maria, je suis ravi d'être avec vous.
On vous retrouvera dès demain dans nos studios. On a enregistré cette émission hors les murs, donc dans la cité ajaccienne d'ailleurs. On parlait justement de ces élections municipales. Le premier grand dossier que vous avez voulu mettre en avant, c'est le dossier du parking et de la place camping. Certains ont dit finalement, vous êtes en retard d'un train. Aujourd'hui, c'est fait, pourquoi revenir sur ce dossier?
Je crois qu'il faut demander aux commerçants si nous sommes en retard d'un train, il faut demander à tous les habitants d'Ayache si nous sommes en retard d'un train, parce que ce parking, je le répète, ça a été l'erreur fondamentale de la majorité municipale en place. Ne pas permettre qu'un parking de 678 places, un parking souterrain, soit créé à Ayache, en occasionnant par là des dépenses d'une vingtaine de millions d'euros, 21 millions d'euros pour être plus précis, qui ont été jetées à la mer, c'est vraiment quelque chose qui, de notre point de vue, est de nature à disqualifier complètement M. Laurent Marcangel et son conseil municipal.
On va se faire l'avocat du diable aussi, à propos toujours de ce parking. Aujourd'hui, on parle de voies douces, on parle de modes de transport en commun, on parle de moins de voitures dans la cité. Ce parking, est-ce que ça n'aurait pas été le contraire de tout ça?
Les choses que nous envisageons pour notre ville, il faut une temporalité. Il y a des objectifs à terme immédiat, à court terme, à moyen terme et à long terme. Il est évident que nous ne pouvons plus miser sur le véhicule individuel comme seul moyen de déplacement, ce qui se fait aujourd'hui malheureusement partout en Corse. Il faut à un moment donné mettre un terme et puis s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, surtout de ce qui marche ailleurs. Et qu'est-ce que c'est qui marche ailleurs? Eh bien, on voit qu'on essaye de restreindre l'accès au centre-ville des véhicules, on piétonnise, on embellit et on voit que les centres-villes sont beaucoup plus fréquentés. Le problème, c'est qu'il faut en même temps que des moyens de transport en commun fonctionnent. Or, aujourd'hui, rien ne fonctionne. Alors moi, ça me fait un petit peu sourire quand on me parle d'intermodalité, puisqu'aujourd'hui, le pilier des transports en commun, qui sont le transport en commun par bus et la Mouvita, ne fonctionne absolument pas. Donc tant qu'on ne résoudra pas ce problème, et nous avons des idées pour le résoudre, eh bien de toute façon, tout le reste ne restera en l'état de vaines promesses qui ne sera faite que pour abuser les électeurs le temps de quelques mois. Et puis tout retrouvera son train-train si d'aventure nous ne parvenions pas à accéder aux responsabilités. Mais vous le savez, je suis convaincu du contraire.
Vous parlez de solutions pour cette intermodalité. Quelles sont-elles ?
Les solutions, il y en a l'État, même s'il n'y en est pas au programme, mais tout le monde ne les connaît, c'est pas une nouveauté. Il faut, je vous l'ai déjà dit, faire en sorte que les bus fonctionnent, que les réseaux de transport en commun par bus fonctionnent de manière optimale, en tout cas bien mieux qu'aujourd'hui. Il faut privilégier les modes de déplacement doux, que sont le vélo, que sont le marche à pied, les navettes, les parcs relais, qui seraient faits dans le bon sens, qui seraient signalisés, qu'il serait pratique d'emprunter pour les automobilistes. Il faut penser aussi parfois à une fiscalité qui soit incitative, soit répressive. Mais tout cela doit être fait dans un second temps. Dans un premier temps, nous devons permettre à notre ville de continuer d'exister en tant que ville, avec son attractivité qui doit être décuplée. Et ça, comment fait-on? Eh bien, on permet le stationnement, on crée des parkings suffisants pour qu'au moins les résidents puissent se garer, et pour permettre au centre-ville d'avoir une bulle d'oxygène. Et malheureusement, c'est tout le contraire que l'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons absolument inverser la tendance.
Une galerie marchande qui se transforme en parking, ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire deux choses. C'est une grande tristesse, parce que avant, dans cette galerie marchande, il y avait des commerces, il y avait une vie. Moi, je m'en rappelle très bien. Tous les Ajacciens de ma génération, sur le cours Napoléon, sont tous rentrés dans la galerie Napoléon pour faire leurs emplettes, et de l'avoir transformé en parking, si d'aventure cela devait se faire, parce que ça me semble assez délicat, et il faut les promesses de campagne, il faut quand même être très prudent. Maintenant, si ça peut offrir une solution pour les habitants du centre-ville, même si cette solution apparaît dérisoire, 80 places au vu des 670 2018 du parking qui a été résilié par Laurent Marcangeli et son équipe, c'est pas grand chose. Mais si ça peut offrir une solution temporaire qui peut permettre aux habitants et aux commerçants de souffler un peu, pourquoi pas. Mais je vous dis, le sentiment qui domine, c'est une grande tristesse de voir des commerces transformés en parking en quelque sorte.
Merci Jean-François Casalt, merci, à demain.
À demain.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons Jean-François Casalt dans nos studios, bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à tous les auditeurs.
Donc on rappelle, candidat à la municipale Ajaccio, conseiller territorial également, avocat. Donc on va parler d'un sujet important pour la Corse et pour les Corses, c'est le sujet de la précarité. On entend donc des chiffres quand même alarmants avec la région la plus pauvre de France, avec bon nombre de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Même la définition même de ce seuil de pauvreté a été remise en cause, notamment par le docteur François Pernin. Cette problématique du social, c'est quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, que au travers de la collectivité ou de la municipalité, vous avez décidé de prendre à bras le corps.
Tout à fait. Vous avez pu remarquer que nous avons défini trois axes essentiels dans notre campagne. Et l'un de ces axes, c'est justement la lutte contre toutes les exclusions, la pauvreté et la précarité. Vous avez parlé du classement de la Corse, en quelque sorte, hein, dans les régions françaises, avec ce chiffre extrêmement inquiétant. J'aimerais faire un focus sur le territoire de la commune d'Ajaccio. Vous savez que l'on estime le nombre de personnes qui vivent au seuil ou en deçà du seuil de la pauvreté à environ 17 000 personnes, sans compter les personnes qui sont dans un état de marginalisation extrême, c'est-à-dire les sans-abri, que l'on évalue selon les chiffres les plus optimistes à 80, les plus pessimistes à 150. Tout cela pour dire que c'est un problème d'une importance cruciale et qu'il faut tout faire, chez nous comme ailleurs d'ailleurs, mais chez nous plus particulièrement, pour ne pas laisser les gens au bord du chemin et de les aider du mieux possible.
Tout faire comment ?
Il y a deux axes essentiels. Le premier, c'est les outils que nous pouvons mettre en place qui vont renforcer les mécanismes de solidarité et de partage au plan municipal et intercommunal. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Le second, peut-être encore plus important d'ailleurs, ce sont les mécanismes et les moyens qui vont renforcer l'attractivité économique du territoire et son développement économique. Il faut évidemment envisager ces deux axes comme étant complémentaires.
L'attractivité économique du territoire, mais il y a souvent les oubliés, les invisibles, qui même si un territoire est attractif, il faut répartir les richesses, et ça, c'est pas gagné.
Ça, c'est pas gagné. Vous savez, nous, vous prêchez un convaincu, en quelque sorte, Maria, car la solidarité et le partage, c'est au cœur de notre action, et pas depuis quelques mois, hein, depuis le début et l'entame du mouvement national en Corse. Vous parlez d'attractivité et de développement économique. Avant cela, j'aimerais parler des mesures qui vont fonder, de notre point de vue, les mécanismes de solidarité et de partage. Comment les envisager sans créer et renforcer un partenariat entre la ville et les différentes associations sociales, humanitaires, caritatives. Je veux parler de la FALEB, du Secours Populaire, de la Croix-Rouge, de la Fraternité du Partage, de la CLÉ, hein, avec le travail de bénédictin du docteur Pernin que nous connaissons tous. Donc ça, c'est extrêmement important, je le disais tout à l'heure. Et il faut non seulement créer ces partenariats ou les renforcer quand ils existent déjà, mais surtout fédérer ces initiatives au plan municipal, parce qu'on en a parlé, mais surtout au plan intercommunal. Vous savez qu'aujourd'hui, la compétence social est en très grande partie détenu par la collectivité de Corse, par l'intercommunalité, par la CAPA également, et que la ville d'Ajaccio, stricto sensu, a peu de compétences au plan social. Nous, notre grande idée depuis longtemps, c'est de pouvoir créer un guichet unique pour l'ensemble, non seulement des partenaires économiques, financiers, sociaux, toutes les associations, mais également le public, pourraient s'adresser pour que leur démarche soit facilitée dans ces domaines-là. Il y a d'autres initiatives intéressantes qu'on peut prendre, notamment en matière de santé, parce que la santé divisée en quelque sorte l'action sociale et la santé, même si ça se fait sur un plan administratif ou au plan de l'organigramme, ça n'a pas grand sens. Il faut peut-être, et c'est une idée que nous développons et sur laquelle nous travaillons beaucoup dessus pour des gens qui ont de la difficulté à se soigner, essayer de faire en sorte de trouver un partenariat entre la ville par exemple et une mutuelle pour pouvoir en mutualisant les coûts les réduire et faire en sorte que des gens qui ont du mal à se soigner puissent justement trouver des soins à des tarifs qui soient acceptables pour tous et surtout pour des gens qui ont de maigres revenus. On pourrait faire aussi, l'heure n'est pas au programme comme je le dis souvent, mais appel au mécénat pour créer un fonds de solidarité à l'image de ce qui vient de se faire à la collectivité de Corse avec le fonds Corsica Solidaria. Ça pourrait être fait à l'échelle de la municipalité, notamment au plan plutôt de la solidarité et du partage proprement dit, mais pour que ce fonds puisse abonder d'autres initiatives dans d'autres domaines d'action. Faudrait aussi travailler, encore une fois, on a beaucoup d'idées, mais sur l'échec scolaire. scolaire. Vous savez que l'échec scolaire, c'est le premier pourvoyeur de pauvreté, malheureusement. Donc, si on travaille pas sur l'échec scolaire, je pense qu'on passe à côté du problème. Le partenariat avec les entreprises. On sait que, par exemple, pour les personnes qui sont les plus marginalisées, c'est difficile et c'est long de les réinsérer dans une vie sociale, je dirais, classique et traditionnelle. Si on fait des partenariats avec des entreprises, des stages en entreprise, ben, ces processus, sur quelques personnes, pas sur tous, parce qu'évidemment, c'est un idéal, mais les idéaux sont rarement atteints, on pourrait justement arriver à en réinsérer une bonne partie, et c'est notre objectif. Encore une fois, je le disais en préambule de mon propos, ne laisser personne sur le bord du chemin.
Merci Jean-François Casalta, merci beaucoup, on va vous retrouver tout à l'heure, après le journal de 12h. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Jean-François Casalta, notre invité cette semaine, conseiller territorial, candidat à la municipale à Ajaccio et avocat de profession. Bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
On parle donc de ce thème de la précarité aujourd'hui, avec donc un certain nombre de mesures que vous avez évoquées dans la première partie de cette édition. Le docteur Pernin, lorsqu'il parle de cette précarité, il dit qu'il vaut mieux aujourd'hui créer moins de précaires, créer moins de précarité. Certes, les aides sont nécessaire, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas apprendre à pêcher plutôt que de fournir du poisson ?
Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, Maria, car c'est justement l'expression que je comptais employer pour introduire le second volet des mesures que nous entendons mettre en place pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la précarité, pour lutter contre toutes les exclusions, et même les exclusions qui sont des exclusions géographiques. Car vous avez remarqué, comme toutes les Ajacciennes et tous les Ajacciens, que les gens qui n'habitent pas dans le centre-ville, qui habitent dans les quartiers périphériques, et qui pourtant font partie du centre-ville tel que nous l'entendons nous, à savoir les Salines, les Cannes, Bourichonne, les Jardins de l'Empereur, sont encore plus oubliés que les personnes qui résident dans l'hypercentre. Et ça, c'est un problème. Et si on ne s'attaque pas à ce problème-là aussi, on ne résoudra pas dans sa globalité les difficultés qui se posent à nous en cette matière. Je le disais, la deuxième phase, mais qui ne doit pas être séparée sur un plan temporel. Tout ça doit être fait de manière concomitante, c'est justement de renforcer l'attractivité économique du territoire et le développement économique. Parce que les aides, vous l'avez dit, c'est bien beau, c'est important, il faut y penser, il faut le faire, mais en premier lieu, on préfère plutôt que d'aider les gens, que les gens soient en situation et en mesure d'être prospères, de vivre une vie tout à fait normale et convenable et d'assurer la reproduction de leur existence matérielle, ce qui n'est pas le cas pour nombre d'entre nous aujourd'hui. Et en second lieu, malheureusement, il faut y mettre beaucoup de mesures parce que les aides, ça crée aussi un appel d'air et il faut le savoir. Plus vous aidez les gens, plus il y a de personnes qui souhaitent être aidées et ça crée aussi un appel d'air de l'extérieur. Et nous, en tant que nationalistes, nous sommes très attentifs à ce problème-là parce que nous pensons que chez nous, il y a beaucoup de gens qui souffrent de nombreux maux, qui n'ont pas des revenus suffisants et c'est à ces gens-là que nous pensons en priorité. Comment faire pour faire en sorte, c'est vrai que ça peut sembler être une gageure, qu'Ajaccio retrouve un certain niveau d'attractivité et de développement économique? Eh bien, nous pensons qu'il faut mettre en œuvre un développement, miser sur un développement qui nous ressemble. Qu'est-ce que c'est qu'un développement qui nous ressemble? Eh bien, c'est tout simple. C'est mettre en valeur les atouts qui sont les nôtres. Bien évidemment, les atouts qui sont des atouts environnementaux, des atouts patrimoniaux, des atouts culturels, des atouts historiques. Et mettre en valeur, je le disais, je le répète souvent, notre qualité de vie qui est en quelque sorte un condensé de tous les paramètres que je viens de citer là. Si nous arrivons à faire en sorte d'avoir un développement à notre image et pas simplement un modèle de développement qui est malheureusement un modèle de développement importé d'autres lieux que la Corse et qui bien souvent a fait la preuve de son échec et depuis des dizaines d'années, eh bien nous aurons gagné. Nous aurons gagné parce que nous pourrons enrichir ce territoire au plan municipal et au plan intercommunal. Parce que vous savez que l'un des points forts de notre programme, l'un des points forts de notre projet, c'est d'avoir une vision globale, non seulement au plan communal, surtout au plan intercommunal pour envisager les complémentarités. Et n'oublions pas d'ailleurs que c'est la CAPA qui a la compétence du développement économique. Donc quiconque voudrait s'intéresser à ce sujet et oublierait le plan intercommunal, oublierait une grande partie des choses et notamment l'essentiel.
Quand vous parlez d'attractivité du territoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tourisme ?
Ça veut dire tourisme pour une partie, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'au plan national Corse, ça représente entre 25 et 30% du PIB, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais encore une fois, un tourisme qui nous ressemble et qui peut d'ailleurs s'inspirer.
La feuille de route de Nanette Maupertuis, c'est un peu cette idée-là. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres du tourisme, ils sont pas vraiment probants.
Mais parce qu'il faut mettre en place des mesures et arriver à les matérialiser de la manière la plus rapide possible pour que nos objectifs soient atteints en la matière. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais Ayatch a une histoire particulière, il faut s'en rappeler. Au début du siècle, Ayatch était une station d'hiver. Quand on parle d'étalement de saison, quand on parle justement de pouvoir faire en sorte que tous les Ajacciens, et notamment ceux qui ont des commerces de proximité, puissent vivre de manière normale, je dirais, décente de leur activité quotidienne, il faut se souvenir de ces exemples-là. Nous avons des atouts extraordinaires sur notre territoire. Nous pouvons soutenir des entreprises qui sont des entreprises fer de lance aussi dans des matières que l'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies. Regardez les succès intéressants que l'on peut trouver sur notre territoire. Regardez Campusplex, regardez Icar, regardez Quant, regardez des entreprises qui existent depuis longtemps maintenant comme Corse Composite. Il faut que la municipalité et l'intercommunalité fassent plus pour justement aider ces entreprises ou ce genre d'entreprises dans des domaines qui seraient des domaines d'excellence. Il y a aussi et évidemment la possibilité d'aider, possibilité absolue et en tout cas la nécessité absolue d'aider les artisans, les commerces de proximité, les commerces de centre-ville qui aujourd'hui, nous le disons souvent mais c'est un constat que tout le monde peut faire avec beaucoup de facilité, sont à l'agonie. Et on parle des commerces de centre-ville et de l'hypercentre. Imaginez les commerces qui sont dans les quartiers. Vous savez, moi, je vous le dis clairement, quand je vois les commerçants des Cannes, des Salines, qui arrivent à tenir et à continuer à exercer leur activité professionnelle malgré les difficultés, malgré l'abandon des quartiers, moi, je me dis que ce sont des experts, en quelque sorte, de la survie en milieu hostile. Ce sont des gens qui arrivent à, avec une constance et une ténacité admirable, à réussir à faire vivre leur famille. On ne sait pas comment. Si vous n'apportez pas de soutien à ces gens-là, c'est toute la ville d'Ayatch qui meurt, qui est en train de mourir, comme je le disais encore récemment.
Merci Jean-François Casalta, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est donc le candidat à la municipalité d'Ajaccio, Jean-François Casalta, que nous accueillons cette semaine. Bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à toutes.
Et puis également conseiller territorial, on le rappelle, vous êtes avocat de profession. On parcourt l'actualité, les grands dossiers qui font la Corse. Et parmi ces grands dossiers, il y a bien évidemment la langue corse, avec tous les soubresauts, on va dire, que subit cette langue au fur et à mesure des gouvernements. Et on peut dire que sous le gouvernement Macron, elle n'est pas vraiment aidée.
C'est le moins que l'on puisse dire, Maria, elle n'est pas véritablement aidée. Vous avez vu qu'avec la réforme du bac, c'est de plus en plus compliqué pour la langue corse et ce système d'options, surtout dans le secondaire, bien évidemment. On assiste, de mon point de vue, et du point de vue de tous, je pense, à un recul. Et il est de plus en plus compliqué, alors que finalement, le bilinguisme s'est installé dans les esprits, hein, tout au moins l'idée, eh bien, il est de plus en plus compliqué de faire pratiquer cette langue au plus grand nombre, au plan institutionnel.
Qu'est-ce qu'il faut pour sauver cette langue ? Alors, il y a deux écoles, on va dire, en Corse. Il y a ceux qui disent finalement, il suffit de la parler, on n'a pas besoin de l'État. Et puis il y a ceux qui disent finalement, la langue française, elle est arrivée par l'école, elle est arrivée par les institutions. Donc il faut que cette langue, elle ait un statut. Vous êtes plutôt de quel côté ?
Les deux. Et c'est pas une réponse de Gascon ou de Normand. Une langue, avant tout, c'est une construction politique. Vous donniez l'exemple de la langue française. Jamais la langue française ne se serait installée en Corse si nous n'avions pas subi pendant plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années, un martelage de la part de la France sur l'apprentissage de la langue française. Et de manière concomitante, la disparition du corse. Moi, il y a un chiffre qui me marque beaucoup, c'est la transmission, le pourcentage de transmission intergénérationnelle au début du XXe siècle et aujourd'hui, au début du XXe siècle, qui était de 80 à 85% et aujourd'hui, il est de 2%. Donc vous voyez que notre langue, malheureusement, et malgré tous les efforts qui sont consentis par notre collectivité et par tous les acteurs locaux, associatifs qui font un travail remarquable, par tous les instituts de formation qui eux aussi font un travail très significatif, eh bien malheureusement, on assiste à un recul et à une mort qui est une mort programmée. Donc, construction politique, rôle des institutions qui est indispensable. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut justement aussi, et j'en parlais il y a quelques secondes, ce travail associatif, cette prise de conscience dans la population que la langue corse, ça doit être, nous on a une expression qui est une jolie expression, une lingua patuti, una lingua da tutti, qui dès c'est normalement, t'as parlé, t'as pas tutti. Donc il faut que ça infuse, que ça irradie dans la société tout entière. Ça, c'est aussi un travail que nous devons faire au titre individuel et à titre collectif. historique.
Vous disiez donc ce déficit de transmission aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été stoppé justement par le gouvernement. Il y a eu un moment où on n'avait plus le droit de parler corse.
Ah oui, il y avait un moment où on n'avait plus le droit de parler corse. Nous avons tous entendu nos grands-parents, enfin en tout cas je parle des gens de ma génération, qui nous expliquaient que dans les écoles, si on prononçait quelques mots de corse, on se faisait punir. C'était la règle sur le bout des doigts et d'autres sanctions de ce type. Donc on a véritablement empêché pour faire en sorte que la République, dans leur langage, n'est qu'une seule langue. D'ailleurs, si on analyse bien la Constitution, on voit que c'est pas exactement la même chose et que c'est pas exactement l'esprit dans lequel ça a été écrit. Donc voilà, on se retrouve à un point de blocage qui est aujourd'hui plus important que pendant les mandatures précédentes au plan national français.
Alors on parlait justement de dispositifs qui peuvent être mis en place. Il y a Opianudia Lingua qui a été mis en place par la collectivité de Corse. Et on voit que finalement, ce plan, il n'est pas vraiment respecté. Il y a l'immersion qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On a vu les positionnements, que ce soit de la rectrice ou de la préfète, sur ce document immersif. C'est pas vraiment mis en place.
C'est pas vraiment mis en place. S'il y a des positions qui sont très dures, qui sont très raides, de la préfète, de la rectrice, et qui sont peu compréhensibles, je vais vous donner un seul exemple. C'est l'actualité récente qui nous le montre. C'est le courrier qui a été reçu par le président du conseil exécutif, Gilles Simeone, courrier qui émanait de la préfète, lui demandant de retirer l'annexe d'une délibération concernant la crèche bilingue du Laetitia. Que disait l'annexe de cette délibération? Elle disait qu'il fallait favoriser l'emploi de personnes bilingues pour travailler dans une crèche qui elle-même est une crèche bilingue. Donc vous voyez bien que ce courrier n'a ni rime ni raison, et j'ai lu avec beaucoup de plaisir la réponse que a fait le président du conseil exécutif à madame la préfète en lui disant c'est très curieux. Un, l'État a approuvé le principe de site et de crèche bilingue, c'est ce que nous faisons, et on ne voit pas où est la difficulté d'employer des personnes qui parlent corse pour justement apprendre le corse aux enfants, aux nourrissons qui sont dans cette crèche. Donc c'est une position inquiétante presque, très raide, très fermée de l'État sur une position anti-corse. Voilà, à un moment donné, il faut employer les noms et il faut nommer l'ennemi.
Est-ce que cette position anti-corse, elle est aussi, alors ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on a vu la préfète de Corse barrer Privetta di Gorsiga et mettre préfète de Corse en français.
Ce sont des petits épisodes, des anecdotes qui pourraient passer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des micro-événements, mais c'est quand même quelque part significatif. Vous savez, ça m'a choqué ce genre de choses, vous parlez préfète de Gorsiga et préfète de Corse. Je suis passé hier devant les grilles de la préfecture et il y avait de très belles photos contre justement les violences faites aux femmes. Il y avait des personnalités de toute l'île qui se sont fait prendre en photo avec un petit texte. Et le texte disait en général basta gousi, un petit mot en corse pour dire que les violences faites aux femmes, il fallait absolument arrêter et on est à fond dans ce combat. J'ai vu la photo de la préfète. Elle avait marqué le mot respect en français sur la main. Évidemment, le respect, ça parle à tout le monde, mais je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas avoir, comme tous les autres, employé un petit mot de corse? Vous voyez, il y a véritablement un problème. C'est pour ça que je vous parle. On dénonce les systèmes, principalement. On n'aime pas s'attaquer aux hommes et aux femmes. Pas d'attaque ad hominem, c'est un principe chez nous, c'est presque une religion. Mais là, véritablement, on dirait qu'on excède presque la feuille de route et qu'il y a un comportement inquiétant et un comportement anti-corse que nous dénonçons.
Vous parliez de respect, ça peut passer aussi par le respect de la langue de l'autre?
Oui, la langue de l'autre, de la terre sur laquelle on vit, des gens qui vivent sur cette terre. Et c'est ça aussi le respect, ou rispetto, en corse.
Merci Jean-François Casalta, merci,
c'est
à tout à l'heure.
C'est moi qui vous remercie.
Rebonjour, on retrouve notre invité Jean-François Casalta. Bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
On reparle donc de cette intermodalité, de ces transports. On a parlé des transports maritimes, mais il n'y a pas que le maritime ou que l'aérien. Il y a aussi le transport intérieur, j'ai envie de dire, donc les chemins de fer. Et puis sur le territoire d'Ajaccio et de la Capa, cette fameuse intermodalité dont on entend parler, avec ce téléphérique également, avec ces transports en bus, en navette maritime aussi. Pour vous aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, le modèle n'est pas le bon?
Pour moi et pour l'ensemble des Ajacciens, je crois que ça ne fonctionne pas. Alors vous avez parlé du projet du téléphérique, c'est un projet qui fait sourire, tant il nous paraît irréalisable au point de vue financier, au point de vue de sa matérialisation pratique. Et ensuite vous avez parlé d'intermodalité. Moi, je veux bien l'intermodalité, ce sont des mots, mais quand on pense à l'intermodalité et quand on veut la mettre en œuvre, encore faut-il que les piliers qui normalement doivent desservir l'ensemble du territoire de la commune d'Ajaccio, voire l'ensemble de la Capa, à savoir le réseau réseau de transport par bus fonctionne. Alors aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc moi, je veux bien qu'on fasse des projets à grande échelle et qu'on organise une sorte de fuite en avant en disant demain, ça va marcher. Mais aujourd'hui, les bus, alors que c'est le pilier, ne fonctionnent pas. Et ça, tous les Ajacciens peuvent se rendre compte.
La faute à qui ?
Alors vous savez, il y a différentes difficultés dans la société Movistar ou Movistrad, hein, selon le plan sur lequel on se situe. Différentes difficultés. Il y a une première difficulté qui tient à des querelles de personnes à l'intérieur de cette société, des querelles de syndicats, mais ça, c'est vraiment pas le plus important. Ça, c'est l'écume des choses, et ces problèmes-là peuvent se résoudre assez facilement. Le vrai problème, c'est un problème de direction politique. Parce que les personnes qui étaient en place dans cette société, avec la création de cette SPL, la Société Publique Locale, en 2016, n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Parce que sinon, les choses seraient passées de manière tout à fait normale et conforme à l'intérêt public. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans cette société ? Vous voyez une direction qui a été nommée alors qu'elle n'a absolument pas les compétences pour gérer ce genre d'entreprise. Vous voyez une direction bicéphale qui a été maintenue pendant une année et qu'on a payé donc deux salaires pendant une année, des salaires à un niveau extrêmement important, de manière complètement inutile. Vous voyez de la part de la CAPA la volonté, depuis le début de l'année au moins, de ne plus supprimer les services qui ne peuvent pas être assurés du fait de l'absence de disponibilité des conducteurs. Je crois que l'on parle sous réserve, pour être prudent, de 430 services qui ont été supprimés cette année. C'est-à-dire que les gens, quand ils attendent le bus et quand ils pensent qu'il est en retard, en fait, il n'est pas en retard. Il y a juste un bus sur deux qui arrive, c'est tout. Parce que la CAPA a décidé de ne pas remplacer ces services supprimés. Des embauches relativement considérables qui ont été réalisées depuis 2016. Certaines tout à fait nécessaires, dues au changement de statut et de la société. D'autres plus critiquables, me semble-t-il. Et puis, vous voyez des choses qui ne sont pas faites dans cette société qui sont absolument nécessaires. Il n'y a pas de billettique dans les bus. Pas de billettique. On peut difficilement faire des statistiques. On peut difficilement contrôler les gens. On peut aussi difficilement, parfois, empêcher le vol et qui arrive parfois dans cette société et qui pose également un problème au niveau des recettes. Donc, c'est toute une direction politique à reprendre et on voit actuellement que celle qui est organisée par l'intercommunalité, par la CAPA et par la mairie, puisque je vous rappelle que ces deux collectivités sont actionnaires de cette SPL, ah bien c'est une grande négligence, un grand laxisme, et surtout, toujours la même chose, hein, du copinage et du clientélisme. On considère cette société comme un réservoir de voix et on le gère, comme tout le reste, à la petite semaine, sans véritable vision d'ensemble des transports et des mobilités. Parce que quand on veut justement parler de transport et de mobilité, la Movistar, de notre point de vue, doit être un élément qui doit être un élément central.
La guerre des syndicats, c'est pas un problème de direction politique ?
Oui, c'est un problème de direction politique. Car quand il y a des avantages qui sont concédés alternativement et selon les périodes aux uns et aux autres, vous créez des barrières entre les personnes et entre les gens. Mais encore une fois, ce genre de difficulté, de mon point de vue, est loin d'être la plus difficile à résoudre. Ça va se résoudre très facilement. Tant que vous mettez en place une ligne claire, avec des objectifs, avec un calendrier et avec des mesures fortes. Si vous mettez ça en place, ce sont d'ailleurs des mesures que nous allons proposer, vous verrez que tous ces problèmes disparaîtront.
Merci Jean-François Casalta, merci beaucoup.
C'est
à
moi
demain.
Qui vous remercie.
Bonjour et bienvenue, nous retrouvons Jean-François Casalta, notre invité. Bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Candidat à la municipalité d'Ajaccio, conseiller territorial. Également, on parle de la langue corse. Alors, on a parlé d'un point de vue plus général ce matin. On va parler ce midi de ce que vous comptez faire si vous arrivez aux responsabilités à la mairie d'Ajaccio. Quel constat vous dressez d'ailleurs ?
Ah, c'est un constat qui est assez triste, hein, parce que globalement, la mairie n'a rien fait, sinon embaucher deux personnes supplémentaires dans ce service qui est le service de la langue et finalement poursuivre sans un souffle nouveau les actions qui avaient été entreprises par l'ancienne mandature. Voilà pour tout potage le bilan de cette municipalité en matière de langue corse. Moi je vous donne quelques exemples. U certificato, c'est depuis 2013, le bain linguistique depuis 2005, la settimana di lingua depuis 2012, le laboratoire de la langue corse est ouvert en 2015 mais il avait été acté déjà par la mandature précédente et l'application par la Migours. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail exceptionnel de cette association, reprend les éléments du site du même nom et qui date de 2010. Donc vous voyez bien que c'est un bilan qui est pratiquement... c'est pas un bilan. Il n'y a rien qui a été fait, ou pratiquement rien qui a été fait par cette municipalité pour la langue corse.
Ça veut dire rien qui a été fait, rien qui a été suivi des faits par rapport à ce qui avait été mis en place sous la mandature de Simon Renucci que vous citez, ou alors ça a été abandonné?
Non. Ça, ce serait faux de le dire. Il y a quelques actions qui ont été mises en place, qui ont été poursuivies par cette municipalité en place, mais on attendait autre chose. Laurent Marcangeli bénéficiait pourtant d'une réelle chance de pouvoir faire plus et mieux. La ville d'Ajaccio a été dotée sous l'impulsion de la mandature précédente, et d'ailleurs de Thomas Jourdoradze, qu'il faut saluer, dont il faut saluer le travail, du premier service de langue corse. Ils ont signé, cette ville et la CAPA, sont signataires de la charte de la langue corse. Il y avait beaucoup de choses à faire, à poursuivre et surtout à amplifier. Or, ça n'a pas été fait. On s'est contenté de suivre un train-train qui ne peut pas convenir aujourd'hui à l'urgence. L'urgence de la disparition dans laquelle se trouve placée notre langue.
Pour rompre ce train-train et pour faire face à l'urgence, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez?
Alors, encore une fois, on ne va pas décliner un programme aujourd'hui. Il sera délivré aux Ajacciennes et aux Ajacciens dans quelques semaines maintenant, mais quand même quelques grands éléments qui paraissent incontournables à tous. Par exemple, la création d'un établissement public et local de la langue et de la culture corse, ça permettrait notamment la revalorisation du parler ajaccien, on nous trouve parler ajaccino, qui discordate ou odien. Vous savez, quand je vois dans la signalétique, assez pauvre d'ailleurs, qui est en place sur le territoire de la commune d'Ajacc, un Corse qui est employé, qui est très souvent un Corse du Chismonto et qui n'est pas le Corse que nous parlons habituellement, enfin que plus grand monde ne parle ajaccien, mais il faut justement essayer de le remettre en lumière, au goût du jour, de le revaloriser pour ne pas perdre ce qui fait notre identité. Et c'est un des combats majeurs que nous menons. Il faut créer par cet établissement aussi une synergie entre les différentes communes et communautés de communes du bassin de vie ajaccien. On pourrait rapprocher les acteurs publics et privés qui agissent pour la langue et la culture corse, et notamment les différentes casilingues. Je vous rappelle qu'il en existe une à Ajaccio. Les instituts de formation, les associations qui ont au cœur de leur action le développement de la langue corse partout. Et dans cet établissement, parce que attention, il ne faut surtout pas qu'on se méprenne pas sur mes propos. Nous, notre objet, ce n'est pas d'enfermer la langue corse dans un lieu ou dans un centre. Je le disais, la langue corse, elle doit infuser, elle doit irradier toute la société. Mais c'est plutôt d'avoir une sorte de centre de pilotage qui permettrait de fédérer, de mettre en synergie toutes les actions institutionnelles et privées et de développer encore davantage l'usage et la pratique de l'australingua.
Vous parliez du Pumuntink, il n'est pas vraiment aidé, y compris à la collectivité de Corse d'ailleurs.
On fait tous les efforts pour. C'est vrai qu'après, il y a des sensibilités de personnes, mais je pense quand même que la collectivité de Corse aujourd'hui a à cœur l'équité dans tous les territoires, une équité financière, une équité de traitement dans tous les domaines et une équité aussi pour l'apprentissage des différentes langues corses. Parce que ce qui fait la beauté de notre langue, c'est l'unité dans la diversité. Tout le monde se comprend et tout le monde parle une langue qui est un petit peu différente, proche de ses origines, de ses terres et de ses villes et de ses villages.
Merci Jean-François Casalta, merci beaucoup, on va
c'est
vous retrouver demain.
C'est moi qui
vous
remercie.
À demain.
À demain.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. On se retrouve en compagnie de Jean-François Casalta, notre invité cette semaine. Bonjour.
Bonjour Maria, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Conseiller territorial, candidat à la municipalité d'Ajaccio, On parle justement aujourd'hui de la problématique des déchets. Alors ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on parle de cette problématique. Vous êtes candidat à la municipalité d'Ajaccio. Il y a une grosse problématique qui est sur ce territoire. On recevait Stéphane Eusbradge la semaine dernière qui nous disait finalement Ajaccio, la CAPA, a un projet, mais que la collectivité n'arrive pas à mettre en œuvre, ne nous aide pas pour mettre en œuvre.
Un petit rappel d'ailleurs. À ce propos, bon, je ne surprendrai personne en disant que le dossier des déchets n'est pas le dossier qui a eu le succès le plus emblématique de notre mandature territoriale. Néanmoins, et c'est pas pour trouver un bouc émissaire en rejetant la faute sur un tel ou un tel, mais c'est vrai que c'est une situation qui dure depuis des dizaines d'années, auquel personne n'a pensé, et nous héritons de cette situation de crise perpétuelle. Aujourd'hui, nous essayons de la gérer au mieux depuis quelques années, mais c'est compliqué. En outre, il faut rappeler aussi que la collectivité de Corse n'a pas de compétence particulière en matière des déchets, sinon une compétence planificatrice. Ce qui a été fait est bien fait. Après, c'est dans l'application de ce plan que nous rencontrons certains problèmes sur le terrain, problèmes que nous comprenons encore une fois, mais nous essayons de trouver le consensus le plus large possible pour essayer de sortir enfin de cette problématique. Je suis quand même assez étonné quand j'entends le premier adjoint de la ville dire que, en gros, hein, c'était le sens de son propos, c'est la collectivité de Corse qui bloque les projets de la CAPA. C'est faux, puisque nous avons justement validé ce centre de sûreté, puisque s'il parle de cela, ce centre de sûreté, un sur le territoire de la CAB et un sur le territoire de la CAPA à AEH, et en rien la collectivité de Corse, en tout cas au regard de la connaissance du dossier que j'ai aujourd'hui, ne bloque les initiatives de la CAPA sur ce point précis.
Qu'est-ce que vous répondez aux associations dans les territoires, on peut penser à Vidjaned, on peut penser à Prunay, lui aussi, qui disent finalement, c'est nous qui ramassons toutes les poubelles de la Corse, alors que les plus gros producteurs de déchets sont la CAB et la CAPA, et qu'elles ne proposent pas de solution.
C'est difficile de ne pas leur donner raison, hein. C'est vrai que Vidjaned, quand on surutilise le site et qu'on le surutilise depuis des années, moi je ne suis pas surpris que la population, à un moment donné, en l'ait tassé et dise « aujourd'hui ça suffit ». C'est ce qui s'est passé un peu plus bas, c'est ce qui se passe à Vidjaned. Oui, alors on est tous d'accord sur un plan. Le problème, je le disais, c'est l'application. Quand il faut trouver des centres de stockage, il y a les gens du territoire qui sont pressentis pour être destinataires des déchets d'une partie de la Corse. Eh bien en général, ils disent « pourquoi on va le faire chez nous ?» C'est la problématique essentielle que nous rencontrons aujourd'hui.
On parlait des centres de proximité, avec la préfète notamment, qui disait n'avoir reçu aucune demande d'aucun territoire pour mettre en place ces centres de proximité.
Écoutez, moi je ne suis pas là pour mettre en doute ou pour valider les paroles de madame la préfète, ça m'intéresse assez peu. Je sais que la collectivité de Corse a un plan qui a encore une fois été établi, qui a été validé par tous, il faut le rappeler, y compris l'État, y compris la préfète, et que nous essayons de le mettre en place. Alors plutôt que du côté de l'État d'essayer de bloquer les initiatives, de dresser les Corses contre les Corses en appuyant sur chaque petit détail qui peut faire mal à la majorité nationaliste, au lieu d'accompagner le mouvement pour l'intérêt général et le bien-être de tous, on ferait mieux d'essayer de faire en sorte que les dossiers sortent sans vouloir faire du blocage systématique et perpétuel, ce qui est malheureusement aujourd'hui la position de l'État.
La position de l'État qui accompagne aussi ce fameux projet privé, on va reparler de Vidjaned. Oui. La majorité dit finalement il faut que la gestion reste au public dans le domaine des déchets pour éviter toute dérive.
Mais je suis parfaitement d'accord, ça ne vous surprendra pas avec cette position. Hein. Les déchets, c'est un sujet qui est éminemment sensible. On sait que c'est un domaine qui est rémunérateur, on sait que c'est un domaine qui aiguise certains appétits. Il faut avoir le contrôle de ce genre de choses. Parce que c'est dans la droite ligne de notre politique. Essayer de faire en sorte que les choses se fassent en toute transparence, au grand jour, sans que des appétits privés ne s'invitent à la table et confisquent en quelque sorte l'intérêt général au profit des intérêts privés.
Merci Jean-François Casalte, merci, à tout à l'heure.
À dope.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Jean-François Casalte, notre invité. Bonjour.
Bonjour Maria.
Conseiller territorial, également candidat à la municipale d'Ajaccio. On parlait de la problématique des déchets, on y revient. Vous avez évoqué le plan donc proposé par la collectivité de Corse. Il y a la gestion évidemment à moyen terme, c'est ce que disait François Sargentine. Il y a la gestion de l'urgence aussi. Pour Ajaccio, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez? On sait qu'aujourd'hui, pendant la crise, il y a eu des mises en balle, mis à disposition aussi des autres territoires que la CAPA. On suppose que c'est pas ça que vous préconisez.
Bon, déjà, il faut savoir que la municipalité a peu de compétences hein, en matière de collecte.
Uniquement la collecte.
Voilà. Non, pas la municipalité, l'intercommunalité. Hein, c'est la CAPA qui a la compétence en matière de collecte. Donc la municipalité a peu de compétences, excepté la propreté urbaine, mais c'est un domaine qui doit être distingué du domaine de la collecte et évidemment une compétence principale qui appartient au CIVADEC. Dans ce domaine-là, la CAPA ne reste pas inerte, ce serait faux de le dire, hein, puisque de toute façon, nous ne sommes pas dans la critique perpétuelle, nous voulons avoir une critique qui est une critique constructive et quand nous apercevons qu'il y a de bonnes choses qui sont faites, fût-ce par nos concurrents ou nos adversaires politiques, nous les saluons. Donc il faut saluer sur ce point-là un certain dynamisme, une certaine volonté de l'ACAPA. Mais il y a quand même des points noirs, hein, des points noirs qui sont quand même importants au plan des ambassadeurs du tri. Je trouve que les personnels ne sont pas assez nombreux, qu'on ne valorise pas, encore une fois, le personnel communautaire, qu'on ne le sensibilise pas assez à ces problématiques. On parle beaucoup, vous savez, à IH, d'incivisme. On dit, les Ajacciens, finalement, ils sont sales, ils sont pas civiques, ils mettent leurs poubelles de partout. Moi, évidemment, ça arrive et ça existe, mais vous savez, le civisme, ça tombe pas du ciel. Si les gens, vous ne les formez pas, si les gens, vous ne leur apprenez pas les bons gestes, et notamment ce sont les enfants qui doivent être sensibilisés. Vous savez, quand un enfant, il apprend tout jeune à faire le tri, ce sont des gestes ce qu'il n'oublie plus et qu'il réitérera toute sa vie. C'est ça qui est intéressant. Donc, si vous ne sensibilisez pas, ne formez pas, ne prévenez pas la population, si vous ne mettez pas en place une fiscalité incitative de préférence, ou voire même répressive, eh bien, on n'arrivera pas à grand chose. On peut parler de beaucoup de choses, malgré, encore une fois, je l'ai dit, un certain dynamisme de la CAPA sur le problème des déchets. Mais il y a quand même le problème des bacs de tri qui ne sont pas assez nombreux sur le territoire de la commune. Est-ce qu'ils sont suffisamment relevés? Et encore une fois, c'est pas un problème de personnel communautaire. Moi, je salue tous les agents de la CAPA qui travaillent, et d'ailleurs tous les agents de la ville qui travaillent. Je trouve qu'ils font, pour ceux qui sont impliqués dans ces problèmes, un travail exceptionnel. Le problème, c'est un problème de direction politique. Vous pouvez avoir les meilleurs agents, les plus compétents, les plus volontaires, les plus dynamiques. Si vous les employez mal, si vous les déployez mal, eh bien, vous n'aurez pas ou peu de résultats. Et c'est ce qui est le cas actuellement et qu'on regrette.
Les intercommunalités reçoivent les moyens, que ce soit de l'État ou de la collectivité, pour organiser ce traitement des déchets. Selon vous ?
Ils reçoivent des moyens.
Le plan a été mis en place de ce côté-là ?
Tout à fait. Ils reçoivent des moyens. Maintenant, dire qu'ils reçoivent les moyens nécessaires, vous savez, l'idéal est toujours un objectif rarement atteint. Et surtout de la part de l'État, qui a un grand talent pour déléguer des compétences, mais ne pas déléguer les moyens qui vont avec, normalement, l'utilisation de ces compétences. Donc, c'est sûr qu'il y a encore mieux à faire, peut-être encore mieux dans l'accompagnement des communes et des intercommunalités sur ces domaines précis, mais nous nous y employons tous les jours.
Vous parliez de ces ambassadeurs du tri qui devaient normalement être mis à disposition des intercos. C'est le cas aujourd'hui ?
C'est le cas aujourd'hui, mais je parlais des ambassadeurs du tri. CAPA, je crois savoir, sous réserve encore une fois, hein, parce que je n'ai pas exactement les chiffres en tête, qu'il y a 8 personnels qui sont dédiés à ces fonctions. Sont-ils bien employés ? C'est la question que je me pose et je dois vous l'avouer, la réponse qui me vient à l'esprit est plutôt négative.
Merci Jean-François Casalta, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouvera tout au long de la campagne et puis de la très prochaine présentation de la liste et du programme. C'est prévu pour quand ?
Oh, disons mi-janvier. Nous n'avons pas encore discuté de cela précisément, mais le programme devrait être restitué aux Ajacciens en début de mois de janvier. La liste, comme traditionnellement dans les campagnes, ce sera aux alentours de ces dates-là. Voilà, sans avoir une date précise pour l'instant.
Merci et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Du lundi au vendredi sur Radio Alta Brigoansa, après les grands journaux de la rédaction de 7h30 et midi, retrouvez l'invité de la semaine avec votre rendez-vous Ousgoardou. Notre invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse. Une interview sans concession du lundi au vendredi, le matin et à midi avec Marie-Anne Franck.